Bonsoir et soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, 19h30 en temps universel et à Abidjan, 20h30 à Kinshasa et à Yaoundé.
Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, le Botswana, c'est une journée historique. Pour la première fois depuis l'indépendance, ce pays d'Afrique australe connaît l'alternance politique. Douma Boko, le nouveau président, a prêté serment après sa victoire aux élections générales face au parti qui était au pouvoir depuis 60 ans. Dernier meeting à Maurice, la campagne électorale s'achève ce soir et dimanche, les électeurs sont conviés aux urnes pour des législatives. Aux Comores, le principal suspect dans le naufrage d'un bateau de migrants arrêté, des trafiquants avaient coulé l'embarcation. Il y a eu au moins 25 morts la semaine dernière entre les Comores et Mayotte. Et puis le football algérien en deuil, on a appris la mort de Rachid Mekloufi, légende du foot algérien, mais aussi symbole de la lutte pour l'indépendance. Le Botswana connaît pour la première fois depuis son indépendance une alternance. Le nouveau président Douma Boko, âgé de 54 ans, issu d'une alliance de partis de gauche, la Coalition pour un changement démocratique, a prêté serment aujourd'hui dans le stade de Gaborone, la capitale. Une cérémonie d'investiture après sa victoire aux élections générales face au parti qui était au pouvoir depuis 60 ans. Claire Bargelès.
Costume bleu ciel, chemise blanche et cravate noire, le tout aux couleurs du pays, Douma Boko a été accueilli sous les ululements et les cris de joie pour prêter serment.
Moi, Douma Gideon Boko, je jure que je remplirai mon rôle de façon fidèle et assidue et que je m'acquitterai de mes fonctions au haut poste de président de la République du Botswana.
Dans les gradins se trouvaient les chefs d'État de la Namibie, de la Zambie, du Zimbabwe et on comptait aussi tous les anciens présidents encore en vie du Botswana ainsi que des chefs de partis d'opposition d'Afrique australe pour montrer, au-delà des divisions politiques, une certaine forme d'unité derrière la démocratie. Et c'est sur ce point que l'ancien avocat, désormais à la tête du pays, a insisté au cours de son discours.
Nous sommes devenus, encore une fois, un cas d'étude intrigant en matière de démocratie en marche, qui n'est pas simplement une idée abstraite et dont le monde pourra tirer des enseignements. Vous n'avez pas pris une décision facile, je le sais, et même à présent, il y a une petite voix dans votre tête qui se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Vous pourrez répondre de vous-même à cela d'ici 5 ans. Et c'est toute la beauté de la démocratie.
Douma Boko va désormais devoir s'attacher à redresser la situation économique du pays et notamment se pencher sur l'avenir du secteur des diamants, la principale ressource du Botswana. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
L'île Maurice vit ses dernières heures de campagne électorale avant les législatives de dimanche. 1 million d'électeurs conviés aux urnes dans les 21 circonscriptions de l'île. La compétition est intense entre les deux grandes coalitions. D'un côté, l'Alliance du Peuple, majorité sortante, et de l'autre, l'Alliance du Changement. Et ce soir, les deux blocs effectuent leur dernière démonstration de force pour rallier les indécis. Abdullah Erali.
Les deux principales coalitions en lice effectuent un dernier forcing pour mobiliser leurs partisans. Maurice est animé ce soir par des défilés de voitures et motos, tandis que les candidats tiennent leur dernière réunion. Après 6 semaines d'une campagne intense, le calme reviendra demain. Cette élection a été marquée par des événements sans précédent dans l'histoire démocratique du pays. Il y a une semaine, les autorités ont suspendu les réseaux sociaux, invoquant la sécurité nationale, mais ont fait marche arrière après 24 heures face à l'indignation générale. Autre fait inédit, la révélation d'un programme d'écoute téléphonique ciblant des journalistes, politiques et personnalités internationales. Un informateur anonyme a même diffusé ses enregistrements sur les réseaux sociaux, exposant l'ingérence du gouvernement dans des institutions clés, de la police à la justice. Ces révélations embarrassent la majorité sortante, l'Alliance du Peuple, menée par le Premier ministre Pravin Jugnauth, face à un opposant de taille, Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance du Changement.
Moroni, 103 FM.
L'affaire a provoqué une vive émotion aux Comores et on apprend qu'il y a eu une première arrestation dans le naufrage d'un Kwasa. Kwasa, le nom de ces bateaux utilisés par les candidats à la migration pour rejoindre l'île française de Mayotte. Le drame avait fait une 20aine de morts, selon les témoignages de rescapés. L'embarcation aurait été coulée par les passeurs Victor Moria et l'homme arrêté serait à la tête du réseau qui a organisé cette traversée.
Et oui, il était même le propriétaire du bateau. C'est ce qu'explique la gendarmerie d'Anjouan. L'un l'une des archipels des Comores. L'homme âgé de 37 ans est un résident maorais de nationalité comorienne. Il serait passé aux aveux et aurait reconnu avoir acheté tout le nécessaire pour le voyage. Il risque 10 ans de prison pour appartenance à un groupe criminel organisé, 3 ans pour transport illégal de passagers et peut-être plus, puisque vous l'avez rappelé Sylvie, l'un des rescapés du naufrage a directement pointé la responsabilité des passeurs dans le drame. Selon son témoignage, les passeurs auraient sciemment coulé le Kwasa Kwasa avant de prendre la fuite en hors-bord. Des accusations qui pourraient rendre responsable l'homme arrêté ce vendredi de multiples homicides, 17 selon la police comorienne pour le moment, 25 selon l'Organisation internationale pour la migration qui a divulgué les témoignages et soigné les rescapés. L'enquête se poursuit à 7h, notamment pour tenter de retrouver les deux passeurs présents sur le hors-bord. Ils sont identifiés et activement recherchés, explique la gendarmerie comorienne.
Victor Moria, 19h36, en temps universel, partout en Côte d'Ivoire, où le FPI, le Front Populaire Ivoirien, tient son 5e congrès ordinaire. Ça se passe à Yamoussoukro et ça dure depuis ce matin. Près de 6000 délégués y participent. L'objectif, c'est de désigner le candidat à la présidentielle de 2025. Son président, Pascal Affine-Guessant, est donné favori. Il s'est exprimé en toute fin d'après-midi pour notamment remobiliser les partis de gauche à Abidjan. La correspondance de Binta Diagne.
Face à ses militants, Pascal Affine-Guessant encourage le président sortant Alassane Ouattara à renoncer à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Il faut qu'il renonce, dit-il, pour ne pas plonger notre pays dans une crise. Il ne faut pas, poursuit-il, qu'il écoute les laudateurs qui gravitent autour de lui et qui appelle à un 4e mandat, fin de citation. Parmi les invités qui ont répondu présents à ce congrès, figurait le mouvement des générations capables, dirigé par l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo et le COGEP, dirigé par Charles Blégoudé. Ce dernier a appelé à l'unité des formations de gauche en vue des échéances électorales. Ce congrès du FPI vise à renouveler les instances du parti, à remobiliser les troupes suite aux échecs aux élections locales de septembre 2023 et surtout à désigner le candidat du parti pour la présidentielle de l'année prochaine. Pascal Affine-Guessant est donné favori malgré l'existence d'un courant dissident formé tout récemment et qui conteste son leadership. Plusieurs cadres critiquent en effet un déni de démocratie interne et un simulacre de congrès selon les mots d'Issiaka Sangaré à la tête du mouvement Démocratie et Valeurs. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Mozambique, le bilan de la répression du mouvement de contestation qui a suivi la proclamation des résultats des élections générales revues à la hausse, puisque selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont été tuées depuis le début de ces manifestations. On passe au sport et le foot algérien qui est en deuil puisque la radio nationale algérienne a annoncé ce soir la mort de Rachid Mekloufi, une légende du ballon rond algérien. Il est mort à l'âge de 88 ans. Rachid Mekloufi qui était un symbole car au tournant des années 60, il était également l'emblème de la lutte pour l'indépendance de son pays. Son portrait signé Frédéric Sutou.
Rachid Mekloufi n'avait que 18 ans quand les recruteurs de l'AS Saint-Etienne l'ont repéré et sont venus le convaincre à Sétif de quitter sa terre natale. Il a rejoint les Verts alors que débutait la guerre d'Algérie. Il est vite devenu l'un des joueurs majeurs du championnat de France. Des buts, beaucoup de buts et des titres avec Saint-Etienne. Des premières sélections en équipe de France. La voix de Rachid Mekloufi, buteur et magicien sur le terrain, était toute tracée. Une carrière dorée l'attendait. Mais au printemps 1958, il a quitté soudainement la France avec d'autres joueurs venant d'autres clubs pour rejoindre l'équipe mise sur pied par le Front de Libération Nationale. Cette équipe du FLN a alors sillonné le monde pendant 4 ans en disputant des matchs de gala, plus de 80 en tout, un moyen pacifique de promouvoir la cause de l'indépendance de l'Algérie pendant que la guerre faisait rage. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance, l'équipe du FLN se dissout et Rachid Mekloufi héros de tout un peuple devenu international algérien, finit par revenir à Saint-Étienne. Il marquera les deux buts de la finale de la Coupe de France remportée en 1968 par les Verts.
Frédéric Sutou, voilà donc un parcours hors norme de ce footballeur algérien, Rachid Mekloufi, qui aura marqué l'histoire de son pays. Il est 20h40 ici à Paris, toute l'actualité. C'est à retrouver bien sûr sur notre site internet www.rfi.fr et puis à suivre sur notre antenne dans quelques instants. Pourquoi RFI dit ça? On parlera des effets du changement climatique qui sont désormais palpable à travers le monde entier. Comment en parler sur notre antenne? On écoutera Simon Rosé. Bonne soirée à vous, à l'écoute de la Radio du Monde.